Non, mes chéris, non, mes petites filles, ce que vous demandez est impossible. N'insistez pas, vous me feriez trop de peine. Insister. Oh, elle s'en gardait bien. Devant le refus du père, Ninette avait pris un livre, Rose un journal de mode, et leur candide physionomie de fillette, subitement fermée comme durcie, s'absorbait dans une attention silencieuse, par moments traversée d'un regard de malice qui se levait et guettait de coin dans le battement des cils. Oh, ce n'étaient plus deux enfants que Fagante avait en face de lui, mais deux femmes, avec cet angélique entêtement de la femme qui amène l'homme à l'exaspération. Et il s'agitait, le pauvre père. Il s'efforçait de faire entrer dans ses sacrées petites têtes les sérieux motifs de son refus, un refus de subvention supplémentaire. Voyons, depuis 7 mois que leur mère et lui s'étaient quittés, avait-il une fois manqué de donner 2 000 francs au lieu des 1 500 alloués par le tribunal? Et cela ne suffisait pas. On osait lui demander davantage, alors qu'il ne possédait pour toute fortune que le revenu de son théâtre. Il ne se plaignait pas. Cette année, son répertoire gardait la vogue, mais ce revenu pouvait diminuer avec les caprices du public. Puis il fallait penser à la dot de Rose. Et enfin, mes mignonnes, je trouve que pour un dimanche où vous venez voir votre père, un de mes pauvres dimanches, vous vous êtes chargé d'une bien vilaine commission. Est-ce qu'on n'aurait pas pu m'envoyer mademoiselle, ou mieux une lettre à laquelle j'aurais su répondre? Il fallait cette attaque directe, leur mère jetée dans le débat, pour rompre le mutisme résigné des jeunes filles. Mais père, dit Ninette sans lever les yeux de son livre, on ne nous a pas donné de commission, et ce petit surcroît que nous t'avions demandé était pour nous seuls. Oui, pour nos toilettes, ajouta sans assurance Mademoiselle Rose du fond des grandes images de mode qui l'entouraient en paravent. Fagan se récria, leurs toilettes, mais le surplus de chaque mois était précisément destiné à leurs toilettes, pas à celles de Madame Raveau, bien sûr. Et des jeunes filles de leur âge, de leur monde, devaient se contenter de cela. Ils se laissaient aller à des détails de dépenses, robes, linge, chaussures, refaisant sans doute une de ces ennuyeuses scènes de ménage d'autrefois. Seulement c'est à deux femmes au lieu d'une qu'il avait à tenir tête à présent. Les répliques se suivaient, fines et pourtant justes chez la cadette, plus troublantes encore chez la douceur et l'insouciance de l'aînée. N'invoquait-elle pas tout à coup un mariage de leur monde qui les obligerait sans doute? Quel mariage? Fit Fagan, vivement redressé. Si prompt qu'eût été le coup d'œil de Ninette à sa grande étourdie de sœur, il le saisissait au passage, pâlissait jusqu'aux lèvres, jusqu'au fond des yeux, et d'une voix stridente et dure. Oh, compris, oh, si, parfaitement, j'ai compris. Madame Raveau se remarie. Oh, c'est son droit. Et avec qui, peut-on le savoir? Cousin, n'est-ce pas? Et j'eus embrassé les fillettes, leurs gestes évasifs, décontenancés, lui répondaient mieux que des paroles et redoublaient son emportement. Non, certes qu'il fût jaloux de son ancienne femme, mais de ses filles, oh, il l'était à souffrir autrefois de leur activité avec ce Lepasterolle, des gâteries, des cadeaux dont il savait les conquérir, attirer à lui leur gentillesse de petites perruches coquettes et gourmandes. Que serait-ce maintenant qu'il habiterait la même maison, avec l'autorité et les privautés d'un beau-père, et bientôt, par la suite des choses, par l'assiduité, la présence réelle et continuelle, plus que leur père lui-même. Cette idée l'enrageait, surtout de se dire qu'on lui emmènerait peut-être ses enfants loin de Paris. Oh, ça, par exemple! Oh, ça, par exemple! Il bégayait de fureur, agitait ses longs bras, ses poings crispés, pleins de menaces brutales. Mais les colères de Fagan, créole de l'île Bourbon, passaient en cyclones, courtes et violentes. Le temps de bousculer quelques chaises, de jeter deux ou trois portes sur de fausses sorties, il s'apaisa, s'allongea dans son grand fauteuil américain, et comme toutes les quinzaines, demanda à Rose d'ouvrir le piano acheté exprès pour elle. Rose, malheureusement, avait la migraine. Oh, si fort, la migraine! Non, voyons, Rosette, presque rien. Quelques mesures de Chopin ou de Mendelssohn. Non, je regrette beaucoup, père. Impossible. Et devant l'intonation morne, implacable, le père n'insistait plus. On ne discute pas avec la migraine. Se tournant vers Ninette. Alors, tu ne descends pas jouer avec Maurice? Oh non, pas aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Cramponné des deux mains à son livre, le front têtu, le menton volontaire sur son petit gol garçonnier, on sentait que ni les tendres reproches du père, ni les regards implorants que levait vers la fenêtre le petit infirme traînant sa béquille dans le jardin, navré et désœuvré, rien ne viendrait à bout de sa résolution. Tout le jour, Fagan se heurta ainsi contre une mauvaise humeur qui n'était pas seulement celle de ses filles, mais l'œuvre de l'absente, invisible et d'autant plus forte. Vraiment, était-ce la peine de divorcer s'il lui fallait subir les mêmes scènes de ménage, suivies de mutisme dont il connaissait bien l'énervante persistance? Dans ce long et lamentable après-midi, il écrivit à Madame Raveau plusieurs lettres qu'il déchirait aussi, tôt trop modérées ou trop mordantes à son gré. Enfin, comme les petites le quittaient sur un baiser très froid et allaient rejoindre Mademoiselle en bas devant la porte, il remit à Rose deux lignes adressées à sa mère et qui lui demandaient un rendez-vous pour le lendemain matin. Sur cette même avenue de l'Observatoire où ils combinaient quelques mois auparavant leur divorce, Fagan attendait son ex-épouse, non sans une certaine curiosité. Bien souvent, en pensant à elle dans des soirées solitaires, il avait essayé de se la représenter. Mais, n'ayant plus aucun portrait, son souvenir parfois brouillait les lignes du visage, agrandissait les unes aux dépens des autres. L'image de la femme n'était plus en lui. Quand il l'aperçut de loin, sur l'avenue, frôlant de sa jupe brune les feuilles mortes entassées, elle lui parut plus grande qu'il ne l'imaginait. Et tandis qu'avec intérêt, elle remarquait elle-même qu'il avait engraissé, le teint plus posé, plus rose, avec la note adoucie de la fine moustache et des tempes qui s'argentaient, lui restait saisi surtout du changement que des cheveux, passés d'un indécis blond cendré au roux le plus vénitien, apportaient à un visage féminin. Le reflet plus chaud d'une belle toile italienne, la nuance des yeux accentuée, la peau éclaircie, une beauté nouvelle, retouchée, flattée, complétée peut-être par un invisible maquillage. La mise, parfaite comme autrefois, se relevait encore de ce bouquet de coquetterie spécial à la femme qui aime et veut être aimée, et d'une certaine allure, assurée, indépendante, que Madame Raveau, seule responsable de ses actes depuis des mois, avait acquise en même temps qu'une autorité sans contrôle. Oh, le divorce, il va bigrement bien, pensa de Fagan. Et tout de suite, il attaqua très résolu. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu de ce mariage? Nous en étions convenus, cependant. Elle accentua son joli sourire fourbe d'autrefois, son regard en coin, sous la paupière entrelevée, comme les espions des croisés de Berne. Mon Dieu, non, rien n'était décidé, elle hésitait encore. Croyait-il cela raisonnable? Vous me connaissez, mon petit Fagan, vous connaissez la Posterolle. Que me conseillez-vous? Elle parlait d'un ton de sincère amitié, et même, marchant à côté de lui sur le trottoir de l'avenue, Instinctivement, elle allait à lui prendre le bras. Mais d'un mouvement presque inconscient aussi, Fagan s'écarta et, pour échapper à ses questions qu'il trouvait déplacées et inopportunes, il lui rappela les conditions de leur divorce. Ne jamais quitter Paris, ne jamais emmener les enfants loin de Paris. Et les mots tremblaient de colère dans sa moustache fauve. Elle le rassura bien vite. Ses filles quittaient Paris. Oh, toujours pas avec leur mère, ni à l'occasion de ce mariage. L'apostérole, maître des requêtes au Conseil d'État, à la veille de passer conseiller, avait tous ses intérêts à Paris. Elle-même était bien trop parisienne. Et ceci tranquillisa Fagan plus que tout. Il ne se l'imaginait pas, en effet, vivant en province, exilé des premières, de l'hippic, des expositions de tout genre, celles où l'on va pour voir ou pour être vu. Et comme elle en revenait à son La Pastorale et aux avantages du mariage projeté, il l'écoutait sans déplaisir, lui donnait presque son avis. Mais la pluie qui menaçait depuis le matin commença à tomber, pluie d'automne menue, pénétrante. De gros nuages s'effrangeaient au-dessus du Luxembourg. Ils ouvrirent leurs parapluies, puis au bout d'un moment, trop loin de lui pour causer, elle ferma le sien, marcha tout à son côté en l'entretenant de leur fille. Sa situation nouvelle, si elle s'y décidait, leur procurait des relations dans le monde officiel, des partis avantageux. L'aîné venait d'avoir 16 ans. Que pouvait pour la mariée une femme seule, divorcée, gênée dans ses sorties et dans ses réceptions? Rose et Linette, à la longue, souffriraient de cet isolement. Mais vous-même, Régis, ne vous trouvez-vous pas bien seule? Elle disait ces mots tout bas, serrée contre lui pour s'abriter de l'averse qui redoublait. Une brume d'eau noyait l'avenue, ses arbres rouillés et le beau groupe de carpeaux avec sa map monde que soutiennent dans un mouvement tournant les 4 femmes de bronze aux jambes élancées et nerveuses. Parfois un couple, chassé par l'ondée, se levait de quelques bancs, passait à côté d'eux, les frôlant d'un sourire furtif et complice, car comment supposer ce qu'ils venaient faire là, ce qu'ils étaient là pour l'autre? Et peu à peu, la douceur de ce matin d'automne, l'imprévu d'une causerie dont il rêvait déjà vaguement pour le théâtre, rendait Fagan attentif à cette voix, qu'il savait cependant astucieuse et menteuse. Et après avoir dit « Mais conseillez-moi », c'est elle qui le conseillait, et si sagement, l'engageait à se remarier, lui aussi, à ne pas finir sa vie dans l'abandon, convenant qu'il ferait un excellent mari avec une autre mieux docile à ses goûts, à ses idées. Amusé du tour que prenait la conversation, il ripostait, affectueux et presque gaiement, quand elle l'interrompit. Ah, quel dommage que Madame Hulin... Madame Hulin, oui, votre propriétaire. De nouveau frémissait au coin des lèvres fines un petit accent de fourberie. Il tressaillit. Ah, vous la connaissez donc? Oh, assez pour savoir quel est le type absolu qui vous convenait. Alors, que signifie quel dommage? Eh oui, quel dommage que Madame Hulin ne soit pas veuve. Et devant son air stupéfait, elle reprit. Vous avez dit aux enfants qu'elle était veuve, mais elle est seulement séparée de son mari. Qu'en savez-vous, ma police? Elle riait si mauvaisement que d'un haussement d'épaule, il sembla rejeter bien loin, comme détail de peu d'importance, Madame Hulin et son veuvage. Ils continuèrent à marcher sans une parole. Mais la pluie qui augmentait, la sortie bruyante d'une salle d'armes d'étudiants, remplissant tout à coup l'avenue déserte de rires et de bousculades, et rompant définitivement le charme de l'original rendez-vous, ils se séparèrent à une prochaine station de fiacre. Pourquoi revenait-il le cœur serré de cette entrevue? Il avait la certitude que ses filles ne s'éloigneraient pas de Paris, que ce mariage ne changerait rien à son existence si calme et si heureuse. Est-ce que des souvenirs, des regrets informulés remueraient en lui au rajeunissement de cette blonde devenue rousse, à son délicat parfum de verveine longtemps aimé? Non, mille fois non. La première surprise passée, l'astucieux sourire avait suffi pour lui rappeler des années d'énervement et de souffrance. Alors quoi? Quelle angoisse l'étouffait? Après mille détours et subterfuges, il fut bien obligé de convenir que sa tristesse venait de savoir son ami marié. Et tout au fond de lui, loin comme au bout d'une allée, apparaissait Pauline Hulin, sa taille un peu courte, ses beaux yeux larges ouverts, aimantés, et cet air de franchise, de bonté rassurante enveloppant tout son être, d'un si absolu contraste avec celle qu'il venait de quitter. Évidemment, sans qu'il s'en doutât, des projets indécis s'ébauchaient dans son cœur depuis des semaines, qu'avait dispersé cette révélation en coup de foudre. Madame Hulin est mariée. Était-ce vrai d'abord? N'y aurait-il pas là un de ces commérages romanesques dont Madame Raveau était coutumière? En y songeant bien, cependant, la singulière réserve de sa voisine au sujet de ce mari défunt ou non, alors que sur tant d'autres points il vivait dans une complète intimité d'âme, certains mots échappés au petit Maurice l'avaient fait souvent réfléchir. Mais dans quel but ce mensonge qui ôtait à cette créature toute de loyauté, d'honnêteté et une grande partie de son charme? Lui, qui se livrait avec tant d'abandon. Mais toutes les femmes étaient donc menteuses. Il n'en fallait croire aucune, attacher même à leurs paroles la valeur d'un témoignage d'enfant devant les tribunaux. Dans cet ouragan de pensées furieuses et contradictoires, il arrivait chez lui bien décidé à une immédiate explication. Quand on lui apprit que le genou du petit enfant s'était enflammé depuis quelques jours et que Madame Hulin avait fait faire venir un grand chirurgien en consultation à cette heure même. Après son déjeuner, Fagan descendit prendre des nouvelles. Il ne fut pas reçu. Entre deux portes, Annette, la femme de chambre qui avait élevé Maurice, raconta, les yeux rouges, qu'on venait de décider pour le lendemain une opération très grave, que la maison était tout en préparatif et que Madame ne voulait voir personne. Il demandait alors s'il pourrait être utile le lendemain pour tenir l'enfant ou pour le veiller. Madame fit répondre qu'elle remerciait bien monsieur, mais qu'elle n'avait besoin de rien. Comme elle était loin de lui en ce moment, la charmante femme, l'amant en danger, comme il comptait peu dans le cœur de la mère. S'il eût gardé quelques doutes sur son amour pour Pauline Hulin, l'état d'incertitude et de fièvre où le tenait toute la matinée du lendemain, l'opération du petit Maurice aurait achevé de convaincre Régis de Fagan. La grâce affectueuse et maladive de l'enfant, ces mots adorables comme en trouvent les petits, à faire croire qu'ils arrivent d'une magique planète au langage naïf, mais à la précoce expérience, non, sans la mère et l'angoisse de la mère qu'il se figurait tout le temps, cela n'eût pas suffi à donner au pauvre Régis les grands, les profonds coups au cœur qui le secouaient de plus en plus fort devant l'imminent d'un danger possible. Par intime, il savait la chose grave, très grave, une suture des fragments de la rotule. Mais l'instant décisif arrive, il parcourait avec précaution son appartement, dans l'impossibilité de tout travail, tendait une oreille anxieuse au bruit du rez-de-chaussée, guettait une plainte, un cri, comme s'il s'agissait d'une de ses filles. Parfois, son angoisse s'attardait à une fenêtre, au tambourinement machinal des vitres sous ses doigts crispés. Et tout à coup, voici que dans une bourrasque d'automne qui échevelait les nuages et tordait les vieux ormes du jardin avec des craquements et des sifflements de mâts, il aperçut par les allées un homme de 35 à 40 ans, trapu, le teint de feu, la moustache en brosse, la taille sanglée dans une redingote militaire, et qui, paraissant inquiète et désœuvrée, comme lui-même, surveillait de regard douloureux la haute chambre du rez-de-chaussée où travaillaient les chirurgiens. Fût-ce un de ces regards dont Régis surprit la détresse, ou l'aspect de cet homme, tête nue malgré la tempête, l'air chez lui, il songea soudainement, mais c'est le père, c'est le mari. Et n'en douta plus, comme un amulin, en long peignoir, ses cheveux défaits, les quatre marches du perron franchies, d'un élan courut vers l'homme rayonnante. Elle lui parlait très vite, sans doute l'opération finie, réussie, et tout en parlant, élevait les mains, retenait l'envolement de ses cheveux en boucles fines. Alors, d'un geste fougueux, l'homme voulut saisir la taille pleine et souple, dégagée par ce mouvement de femme. Mais elle se déroba, fit deux ou trois fois avec colère « Non, non !» en secouant la tête, et s'enfuit sans se retourner. Oh oui, le mari, bien sûrement. Et rien qu'à sa façon de prendre et d'envelopper la femme. Un mari encore jeune, passionné comme au jour des noces. Fagan ne cessa plus d'y penser. Pendant qu'Antime le servait, il essayait d'avoir des renseignements. Mais l'autre, comme toujours, était incapable de répondre. Des cheveux rouges, la moustache en brosse, non. Il n'avait pas entendu parler de ce particulier-là. En revanche, les moindres détails de l'opération, le nombre de trocars et d'éponges, la peur qu'on avait eue un moment de manquer de chloroforme, et quand chacun perdait la tête, le sang-froid de la mère encourageant tout le monde autour d'elle, oh là-dessus, Antime ne tarissait pas. Tout de même, si monsieur voulait, on n'aurait qu'à demander à Annette ou à la cuisinière. Mais je te le défends bien, malheureux, dit Fagan, épouvanté des profondeurs d'abîme où pourrait le jeter cet imbécile. Donc, gardant pour lui ses réflexions et ses tristesses, il s'en alla au vaudeville où sa pièce se répétait, et sa joie fut grande en prenant une voiture à la station de Passy, de voir celui qu'il appelait déjà le mari grimper d'un jarret de jeune homme l'impérial du tramway. Il ne passait donc pas l'après-midi chez Madame Hulin. Aussi les comédiens du vaudeville se dirent-ils ce jour-là en répétant « Ah, notre auteur est de belle humeur aujourd'hui !» Tandis que Régis, amusé par sa prose autant que si elle lui était toute neuve, songeait dans le guignol de l'avant-scène « Mes comédiens jouent comme des anges !» Mais au retour, quel désenchantement, lorsqu'Antime lui apprit, tout béat et fier d'être renseigné, « À propos, cette personne dont monsieur s'informait, qui se promenait tête nue dans le jardin, oui, eh bien, oh, ce doit être quelque proche parent à Madame Hulin. Voilà qui vient de revenir et qui l'y dîne. Même ça m'étonnerait pas qu'il reste couché parce que Annette... que veux-tu que ça me fiche, que cet homme dîne qu'il couche ? Pauvre Fagan, cela lui fichait si peu qu'il ne put toucher à son dîner et que de tout le soir, encore incapable de travail, même de lecture, il ne pensa qu'à une chose. L'homme restera-t-il cette nuit? Et s'il restait, comment supposer que le mari de cette splendide créature, car Fagan ne doutait plus que ce fût le mari, pourrait veiller tranquillement tout près d'elle, et qu'elle-même, dans la joie de l'enfant opéré, sauvé, ne pardonnerait pas au père toutes ses fautes. Il en pâlissait de colère, lui que le mariage de sa femme avec l'apostérol avait laissé si calme. C'est qu'il ne l'aimait plus, sa femme, et qu'il adorait Madame Hulin. Oh, plus de doute maintenant. Que devait-il faire? Rester dans cette maison? Garder leur relation d'intimité? Il serait trop malheureux. Les battements précipités de son cœur lui en étaient la preuve. Il faudrait donc s'en aller, quitter ce petit hôtel si calme, si commode au travail, avec ses soirées longues et le voisinage doucement animé de la mère et de l'enfant. Il fut distrait de ses réflexions par un mouvement inaccoutumé au rez-de-chaussée, des pas précipités, une sourde dispute, puis des coups de sonnette et la bousculade d'une lutte aux meubles renversés, aux imprécations d'une colère d'homme. Fagan, debout dès le premier réveil, s'élança dans l'escalier éteint. Presque aussitôt s'ouvrait l'étage au-dessous. L'homme sortit, furieux, éclairé par Annette dont les mains tremblaient en tenant la lampe. Sur le seuil, il se retourna, vomit les poings brandis en menace d'effroyables injures, et s'élança sur le boulevard, jetant violemment la porte que la femme de chambre derrière lui verrouillait, cadenassait avec le plus grand soin. Immobile, Fagan se tenait dans l'escalier, témoin muet de cette scène et se demandant quel parti prendre, quand, d'un élan irrésistible, il franchit les marches, arriva droit dans le salon où Madame Hulin, affaissée au bord d'un divan, les cheveux dénoués, le regard perdu, se remettait à peine de son drame. Un grand feu de bois l'éclairait seulement par saccades. « Entrez, entrez !» dit-elle, les mains tendues. Ses mains étaient glacées et grelottantes. Il murmura « Ben, vous appeliez, je suis venu. » Et elle, plus bas encore « Oh oui, j'ai eu bien peur. » Sans l'embarrasser de quelqu'un discret à question, il se contenta de dire « Comment va Maurice ?»« il dort, le cher petit. Heureusement, il ne s'est pas réveillé. On lui a donné tant de chloroforme. » Alors, l'opération a réussi. Oh oui, au-delà de toute espérance. Annette rentrait, inondant le salon de la lumière joyeuse de sa lampe. Pas de danger qu'ils reviennent, j'ai mis la chaîne et la barre. Puis apercevant leur voisin. Tiens, monsieur de Fagan, oh, alors nous voilà tranquilles. Quand elle fut partie, Pauline Hulin approcha son fauteuil du guéridon, fit signe à Fagan de s'asseoir de l'autre côté, ayant repris possession d'elle-même, remis en place d'un tour de main ses cheveux de voltant, et les honnêtes plis de son peignoir de laine aux dentelles floconneuses. Vous ne devineriez jamais qui est cet homme? Oui, l'homme qui sort d'ici. Votre mari, je suppose. Ah, vous le saviez? Ben, j'aurais mieux aimé l'apprendre de vous. Écoutez-moi, dit-elle. Et à cette même place, avec les mêmes abois lointains des chiens de garde, la même trépidation grondante des trains de ceinture, dans ce cher petit salon où lui avait conté son triste ménage, Fagan écouta les détresses du sien. Marié au Havre il y a 10 ans avec un commissaire de marine, après 4 ans à peine elle avait dû se séparer. Et combien de patience encore pour vivre ces 4 années à côté d'un homme pareil? Pas méchant, mon Dieu, ni débauché, ni joueur, comme tant d'autres autour de lui, en cette frénétique existence des ports de mer. Mais si jaloux, tellement brutal et déchaîné dans des crises qui revenaient journellement et que rien ne pouvait atténuer ni prévenir, même les précautions de la femme la plus prudente, la moins coquette. Au bal, si elle dansait, scène au retour, et quelle scène! Pour sa toilette, toujours pourtant contrôlée par lui au départ, les fichus remontés jusqu'au menton, les manches allongées jusqu'au coude, pour sa tenue, sa façon de valser, de saluer. Et si elle ne dansait pas autre querelle, en voilà une tête de Bartolo qu'on s'amusait à lui donner, tandis qu'on posait soi-même en victime sur les banquettes parmi les tapisseries. Ah, la pauvre femme, comme elle les voyait venir avec angoisse, ces fêtes officielles où son mari la traînait. Et cette surveillance ne s'exerçait pas seulement dans le monde en soirée. Le jour, elle devait rendre compte des visites faites, et dans l'ordre exact, avec des détails, le nom des gens rencontrés. Ce contrôle la poursuivait jusque dans l'intime de son être, la retraite cachée des idées ou des sentiments. « Mais à quoi penses-tu? Vite, réponds !» Jusque dans son sommeil. Et ses rêves, même muets, il fallait les dire au réveil, au risque de le rendre furieux, s'il n'y figurait pas, car elle aurait su mentir. Pendant ces 4 années vécues près de cet homme, elle ne se souvenait pas d'une seule nuit passée sans larmes, sans cris, injures et violences, où le malheureux s'échappait emporté par son délire. Et après quoi, il se roulait à ses pieds, sanglotait, demandait pardon. « Oh, j'ai pardonné 4 ans, et peut-être par dignité, par pitié ou par honte, aussi pour notre enfant, aurais-je patienté encore. Mais un soir, et ici sa voix, son bras devint plus dur, la voix d'une autre femme, un soir, le misérable, dans une de ses colères, finissant par douter que notre petit Maurice fût son fils, m'arracha l'enfant des bras et le jeta par terre si violemment. Oh, mon pauvre petit! Et de ce jour, il put prier, pleurer, menacer de mourir et de me tuer aussi. Je cessais d'être sa femme. Je demandai la séparation et je l'obtins. Et quittant aussitôt le Havre avec mon enfant, je suis venu vivre à Paris près de ma mère veuve, qui depuis quelques années habitait cette maison. Et c'est pour lui plaire, c'est sur son conseil, que dans ce quartier, dans le monde où nous vivions, je me fis moi aussi passer pour veuve. La vieille société parisienne garde une prévention, une défiance de la femme séparée, d'autant que rien n'indique, à moins de recherches spéciales, au profit de qui la séparation a été prononcée. Aux yeux de ma chère maman, cette préoccupation me servirait surtout quand elle serait plus là, que je resterais seul. Et je dois dire qu'en effet, mon pseudo-veuvage, en plusieurs circonstances, m'a été utile. Fagan eut un mouvement de tête comme pour protester. Et venant tout de suite à ce qui le tourmentait, vous n'avez donc pas profité des bénéfices que vous accordait la loi puisque votre mari revient chez vous. « Il est rentré aujourd'hui pour la première fois, » répondit Madame Hulin, le regard limpide. Annette, chaque premier de l'an, lui écrit de nos nouvelles. Mais jamais avant ce matin, nous nous étions revus. Et je l'ai appelé, moi, à cause de cette opération, qui pouvait être grave, qu'au sujet de certaines clauses de notre séparation, oui, le conseiller de Malville... Malville, Wagnerien de ma femme, le même. Il était alors président du tribunal au Havre et musicien forcené comme mon mari faisait partie du même quatuor. Aussi, tout en prononçant la séparation à mon profit, comment aurait-il pu en juger autrement, il réserva au père le droit de diriger l'instruction de l'enfant depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de ses études. Et Maurice est prêt de les avoir, ces 10 ans. Et à l'idée que j'allais le perdre, qu'on l'enfermerait loin de moi dans quelque lycée, mon cœur se déchirait. Et lui, le pauvre chéri, il en rêve de peur toutes les nuits. J'avais fait demander mon mari avec l'espoir qu'il aurait pitié de notre petit martyr et me le laisserai à soigner au-delà du temps convenu. Alors d'abord, j'ai cru réussir quand j'ai vu son émotion ce matin, osant à peine embrasser l'enfant qui dormait à demi-mort, tout blanc de son chloroforme. Mais le soir, il est revenu. Il désirait passer la nuit dans le salon pour garder Maurice, disait-il, ou quand je serais trop lasse. Alors il parlait si tendrement, j'aurais de me laisser mon fils aussi longtemps que je voudrais. C'était si bien, rien qu'une voix de père. Alors on lui a fait un lit ici, vous voyez, moi, près de mon petit, la porte entr'ouverte. Et tout à coup, voilà que le misérable voulait, et que sans mon refus, ma résistance furieuse. Oh, le lâche ! S'écria Fagan, les lèvres blêmes. Mais son indignation à elle le rassura. Ah, j'ai senti remonter toute ma haine, et je ne sais avec quelle force j'ai pu le repousser, le chasser, en le menaçant d'appeler toute la maison à l'aide. Oh, je jure bien que cet homme ne s'approchera plus jamais de moi, ni de son enfant. Vous, la loi vous autorise, mais l'enfant. Avant ses 10 ans, j'ai encore 3 mois. Si dans 3 mois son genou est toujours malade, j'espère avoir du tribunal un sursis. Et s'il est guéri au contraire, ou si le père a recours à la partialité de son mal vil, j'emporte mon petit et je vais me cacher avec lui au bout du monde. Un silence ému, un long silence suivit cette menace de fuite et de séparation, où leurs idées semblaient déjà s'espacer en détresse. Soudain, Régis de Fagan, comme s'il pensait tout haut. « Mais au fait, pourquoi ne pas divorcer? Après ce premier jugement en votre faveur, rien ne vous sera plus facile. » Et quel avantage? Il devint très pâle. Mais l'avantage de pouvoir vous remarier, et dans l'homme qui vous aimerait, de trouver un défenseur naturel pour Maurice et pour vous. Remarier, oh, je crois bien que mon expérience du mariage est faite. D'ailleurs, j'ai une famille très catholique. Ma chère mère appelait le divorce un sacrilège. Et moi-même, élevé dans ses idées, elle s'interrompit vivement. « Ah, à propos, et votre femme, l'avez-vous vue? J'oubliais de vous en parler. »« Oui, je l'ai vue. »« Sans émotion? Aucune. »« Une ancienne maîtresse rencontrée par hasard à un tournant de rue. » « Ah, voilà ce que le divorce a fait du mariage, » murmura Pauline Hulin, devenue toute rose en apprenant que Régis avait retrouvé sa femme sans aucun plaisir. « Mais elle, êtes-vous bien sûr de ne pas l'avoir impressionnée? Ses nouveaux projets tiennent-ils toujours ?»« Plus que jamais. Seulement, comme j'ai l'assurance que mes filles ne sortiront pas de Paris, je suis ravi d'un mariage qui met cette femme encore plus loin de moi, rend tout rapprochement impossible. » Et voyez combien ma position est meilleure que la vôtre. Supposez-vous divorcer, Hulin pourrait se remarier, se refaire un intérieur, une famille, et vraisemblablement vous laisserez tranquilles tous les deux. Oui, vous avez raison, dit-elle, doucement songeuse. Vous avez raison, mais je ne divorcerai jamais. C'est impossible. Impossible. Depuis quelques jours déjà, les affiches du vaudeville annonçaient très prochaine la pièce de Savgan. On en parlait dans les théâtres, les cercles, au jour des femmes qui reçoivent, dans les bureaux des ministères, les cafés du boulevard, et déjà pleuvait sur la table de l'auteur en vogue des demandes de place pour sa première innombrable à remplir la salle plusieurs fois. Un dimanche que ses filles venaient d'arriver et qu'il leur montrait en riant son courrier, le tas extravagant des solliciteurs. « Ah, tu sais, père, » dit Nina vivement, « maman désirait une loge pour ta répétition générale. » Volontiers, répondit Fagon. S'assombrissant un peu, comme chaque fois qu'elle parlait de leur mère. Ah oui, mais à une condition cependant, c'est que ce soir-là, je vous veux avec moi, et non pas avec elle. Rose, toujours bonne fille, allait répondre, rien de plus simple, mais elle s'arrêta sur un coup d'œil de sa sœur. En même temps, le petit nez en l'air de Ninette objecta. Mais, cher père, tu songes pas que... À chaque pas instant de la répétition, tu seras appelé sur la scène, dans les coulisses, et nous alors, nous resterons toutes seules. J'y ai pensé, répondit Fagan. Nous emmènerons Madame Hulin. Oh, Madame Hulin, jamais de la vie. Debout, presque sans voix, Rose, la douce et jolie Rose, avait en proférant ces mots les traits bouleversés. Non, non, cela, non, il n'y fallait pas compter, pour rien au monde elle ne se montrerait en public avec cette personne. Le père ne se fâcha pas, retenant plutôt une envie de sourire, car il reconnaissait son sang et sa race, et toute son île, dans cet orage des colonies. Mais cette personne, comme tu dis, ma chère enfant, est une femme digne de tout respect, et je ne sais pas... Qui ni dans quel but tu as été ainsi monté contre elle? D'ailleurs, comment peux-tu penser, toi, ma grande, ma rose bien-aimée, que votre père vous donnerait en public ou non la compagnie d'une femme qui ne serait pas l'honnêteté même? Rose ne faiblit pas. Non, tout ce que tu voudras, mais j'aimerais mieux, et ma sœur aussi, nous priver de cette répétition que d'y assister avec. Il ne laissa pas finir. « Entendu, mes enfants, ma répétition se passera de vous. Et n'ayant aucun motif pour inviter la future Madame la Pastorale, je vous prie de l'avertir qu'elle ne compte pas sur sa loge. C'est à la mère, surtout, qu'il en voulait, se doutant bien que la jolie de Rose trouvait là un aliment perpétuel. En effet, tenue au courant par Nina, dont les yeux fureteurs, toujours en chasse, notait soigneusement les progrès de l'intimité entre Fagan et sa voisine, Madame Raveau tirait parti des moindres détails. Ainsi, on condamnait encore le petit Maurice à l'immobilité la plus complète. Il fallait le promener dans la voiture où il se tenait allongé, et Fagan la roulait souvent, cette voiture, de la place sablée devant la maison au rond-point ombreux sous les grands arbres, vous le portez à bras, et Fagan seul pouvait le faire, enlevant avec précaution le pauvre petit infirme, grandi par la maladie, dans son jersey au col blanc, appuyant sa tête toute blonde et pâle à l'épaule de son grand ami. Quand Ninette décrivait de ces scènes intimes, la mère, qui connaissait les faiblesses de ses deux filles, se tournait vers Mademoiselle, l'éternelle confidente, et assez haut pour être entendu. Mais vous verrez qu'il adoptera cet enfant et ne laissera mes pauvres petites que ce qu'il ne pourra pas leur ôter. Dès lors, Mademoiselle Ninette, jeune personne déjà très intéressée, eut en horreur le petit Maurice, et si visiblement que l'enfant n'osait plus lui demander à jouer, ni même lever les yeux vers la fenêtre où il la guettait autrefois. Avec Rose, que les questions d'intérêt ne touchaient guère, c'était d'autres procédés. Passionnée sous sa mollesse et surtout très jalouse, elle s'emportait à l'idée qu'une étrangère tenait autant de place qu'elle dans le cœur de son père. Une chose lui plaisait pourtant chez Madame Hulin, son côté religieux qui l'empêchait de divorcer, quoique très malheureuse en ménage. La jeune fille, conservant de son séjour à l'Assomption un fond de religiosité, trouvait cela très bien et le disait devant sa mère. « Allons donc !» ricanait Madame Raveau. Et Mademoiselle, anglaise, protestante, ricanait avec elle. « On les connaît, ces dévotes. Leur religion les empêche de divorcer, mais c'est tout ce qu'elle empêche. » Or, Mademoiselle Rose, parisienne moderne, à l'ignorance avertie, savait bien ce que les mots veulent dire, et gardait la conviction que Pauline Hulin était la maîtresse de son père, d'où son indignation à partager la même loge. Encore un dimanche gâté, un de ces bons dimanches où le père apportait des friandises de tous les coins de Paris, se rappelait des menus de souper fin pour fêter ses filles, et fleurissait la table de bouquets rares en même temps qu'il l'amusait d'une coquetterie d'esprit et de parole à l'adresse des chères petites qu'on lui laissait si peu connaître. Cette fois, il leur en voulait, et sa rancune si extraordinaire semblait justifier les calomnies de Madame Raveau. Fallait-il que sa voisine eût pris du pouvoir sur son père, si vite soumis et conquis d'habitude? Lui regardait les délicieuses toilettes encadrant de furieuses petites moues. Il se rappelait ses nombreux sacrifices, surtout le dernier, cette augmentation de rente accordée sans calcul. Et en même temps, on montait du jardin le grincement de la petite voiture sur le sable, avec la voix de cette douce et parfaite Pauline Hulin, dont il connaissait les transes, les détresses, et envers qui ses filles se montraient si cruelles. Pour la première fois depuis l'institution des dimanches de quinzaine, Régis et ses enfants, ne sachant comment finir leur journée ensemble, Antime reconduisirent Rose et Ninette en voiture avant l'heure convenue. « Voulez-vous de moi pour dîner ?» demanda le pauvre père à Madame Hulin. Et quand il eut conté le motif de sa brouille avec ses filles, en guise de remerciement, il ne reçut que des reproches. « Mais comment pouvez-vous leur en vouloir d'être jalouse de votre amitié pour Maurice et pour moi ?» « Rien de plus naturel, cependant, mon ami. D'abord, je n'irai pas à votre répétition. Est-ce que je peux quitter mon petit malade? Si dévoué que soit Annette, pourrais-je lui confier pour tout un soir? Non. Et puis j'ai le cœur si gros, tant de chagrin en perspective. Songez que j'en suis presque à désirer que mon enfant reste infirme. C'est affreux! Mais s'il guérit, le père va venir me le prendre. Et vous voulez que j'aille à ce théâtre, essayer de me distraire? Oh non! Gardez vos filles près de vous, dans votre loge, et venez me dire en rentrant si vous êtes satisfait, si votre pièce a réussi. Je vous attendrai, je vous le promets. » Comme tout ce qu'elle disait était sincère, montait de l'intime de son être, avec l'impétuosité tranquille et irrésistible d'une lame de fond, son ami crut en elle et lui obéit de tout point. Le soir de la répétition générale, pendant que Madame Raveau, accompagnée de son fiancé, la Posterolle, et d'un ami, se faisait ouvrir, en femme qui a l'habitude de ses solennités, une avant-scène des premières, l'auteur de la pièce installait dans une baignoire ses deux filles, chaperonnées de leur anglaise en bois peint. La salle avait un aspect fantomatique, sous la lumière à demi-lustre, laissant voir çà et là, aux divers étages, des groupes d'ombres chuchoteuses, critiques, amis de l'auteur et du théâtre, modistes couturières, habilleuses, et de temps en temps, par l'entrebâillure d'une porte, flottaient les rubans roses des ouvreuses dans les corridors flamboyants. « Eh bien, ça marche, il me semble !» murmurait de Fagan, avançant entre ses deux filles rayonnantes, une tête de condamné à mort, aux yeux sans regard, aux lèvres décolorées comme s'il en était à sa première pièce. « Si ça marche, mais écoute donc !» répondait Ninette, sans s'interrompre d'applaudir ce second acte, à la fin duquel tous les groupes épars dans la salle s'unissaient pour une véritable ovation. Rose en avait des larmes dans ses yeux purs, et là-haut, Madame Raveau, éclairée par la rampe, toute penchée hors de sa loge, sans la moindre gêne de sa fausse situation, se pâmait et poussait des cris connaisseurs au claquement de son éventail. Oh, « Très bien, ça c'est très gentil !» et des sourires d'intelligence, d'approbation aux artistes en scène, à croire qu'elle était encore la femme de l'auteur. Femme de l'auteur, un soir de succès, Voilà qui chauffe une vanité féminine. Bien sûr que son laposterole ne lui procurait jamais cette satisfaction-là, non plus qu'à ses filles. Ainsi pensait Régis de Fagan, et rien n'eût manqué à son triomphe s'il avait deviné dans l'ombre de sa baignoire le sourire rassurant, la grâce paisible de Pauline Audelin. Après la troisième acte, la pièce, qui en avait quatre en tout, ne fit plus que monter. Fagan, ivre de cette joie dont les hommes ne se blâment jamais, voulut y mêler ses filles pour donner à leur vanité une jouissance inoubliable. Et la porte de sa baignoire ouverte, il reçut devant elle les amis, les solliciteurs aussi, directeurs de province ou de tournée, correspondants étrangers, s'empressant pour traduire et transporter sur des scènes lointaines la nouvelle œuvre de l'auteur acclamé. Entre-temps, arrivaient des boîtes de fondant, des fleurs pour ces demoiselles, et des mains se tendaient, des félicitations se criaient du couloir, pendant que Rose et Ninette, absolument étourdies du succès paternel, avaient leur part de ces hommages, si jolies toutes deux et d'une grâce différente, la petite aux yeux rieurs et futée dans un teint d'églantine, la grande, indolente et penchée, mate sous les lumières comme une créole. « Mes filles !» disait Régis fièrement. Et devant ces deux parisionnettes, habillées chapeautées à miracle, tous ces boulevardiers, journalistes des gens de bourse à tempérament de joueurs, se disaient entre eux avec envie « Oh, des fétiches pareils, pas étonnant qu'il ait la veine !» Soudain, le groupe enthousiaste autour du triomphant auteur s'écarta devant une toilette à effet. C'était Madame Raveau, précipitée en avant, la main tendue, et secouant celle de Régis en camarade virilement. « Bien ça, mon petit Fagan, très bien !» Puis un sourire radieux à ses filles, et elle passa, laissant une certaine stupeur après son acte si direct, si imprévu, et diversement jugé par les couloirs. D'aucuns y voyaient un coup de tête, un enthousiasme irréfléchi, l'amour de l'art au-dessus des conventions gênantes. D'autres, et Régis était du nombre, reconnaissaient bien là cette race de mondaines à réclame, voulant en être à tout prix, et se taillant un rôle dans n'importe quelle pièce où elle ne joue pas. Bien ça, mon petit Fagan, il en riait tout seul, après avoir mis ses filles et leur gouvernante en voiture, et regagnant à pied son logis lointain pour calmer sa fièvre et ses nerfs au froid hivernal d'une belle nuit claire. Par contraste, les souvenirs lui revenaient de rentrées avec sa femme, certains soirs où sa pièce n'avait pas réussi. Comme elle lui en voulait alors, de quel mauvais rire elle souffletait l'œuvre et l'auteur. Et ses méprisants haussements d'épaules pour l'espoir qu'il gardait encore. Ensuite, au matin, quand les journaux arrivaient, dans ce tas de feuilles informées, hargneuses et perfides, comme elle allait à la pire pour lui signaler la ligne incisive, le passage blessant. Ah, le mauvais compagnon de vie! Elle pouvait bien s'enlever aujourd'hui, applaudir son petit Fagan. Il se réjouissait de rentrer tout seul, son Fagan, libre sous les étoiles, et de penser qu'elle rageait sans doute du succès qui se préparait incontesté, fructueux, tel qu'il n'en avait jamais eu de son temps. Quelques semaines après la représentation du vaudeville, quand le nom de l'auteur s'étalait encore sur les porte-affiches et son portrait aux vitrines, les journaux annoncèrent le mariage en grande pompe à la mairie de la rue de Rouault de M. Laposterolle, maître des requêtes au Conseil d'État, avec Mme Raveau. Deux ministres assistaient le mari. La femme, deux académiciens, dont l'un lui avait déjà servi de témoin à son premier mariage, quelque 18 ans auparavant. Toilette et jolie femme. Après la cérémonie, les mariés recevaient dans leur appartement de la rue Lafitte. Sans mentir, demandait Madame Hulin à son locataire en visite chez elle ce soir-là, ce qui s'est passé aujourd'hui ne vous a pas un peu serré le cœur ? Il lui jura que non. Puis avec des yeux très tendres, ah, que je voudrais vous voir libérée aussi. Oh, je sais bien que je suis encore privée de mes filles. Mais vous allez voir que Madame la Posterolle sera moins stricte que Madame Raveau au jugement du tribunal et que mes enfants viendront chez moi plus souvent. Le divorce, voyez-vous, le divorce, il n'y a pas d'autre solution. Mais elle secouait la tête avec le sourire triste des convictions qu'on n'atteint pas. Les faits semblaient pourtant donner raison à Régis. Rose et Ninette accouraient plus souvent au boulevard Beauséjour et n'en s'entendaient pas au dimanche de quinzaine. Tantôt la grande sœur, tantôt la plus jeune, en course avec mademoiselle, tombait à l'improviste et s'installait une heure ou deux. Et si Rose continuait à bouder les voisins, maintenant Ninette était la première à vouloir descendre au jardin et courir avec le petit Maurice, qui commençait à ne plus se servir de béquille. « C'est drôle, disait ce Jean-Christ d'Antime à la vieille servante du dessous. On ne montra pas de l'idée que l'ancienne madame à monsieur le fait moucharder par ses filles, par rapport à votre patronne. » Pour s'en apercevoir, il ne fallait pas grande finesse. Mais ce Régis de Fagan, subtil regardeur et peintre d'humanité, mettait, comme beaucoup de ses confrères, tout ce qu'il avait d'observation aiguë, de complication d'esprit, au service de son œuvre, et n'en gardait que tout juste pour la conduite ordinaire de l'existence. Donc il ne remarquait pas la surveillance exercée sur lui. Et Pauline Hulin, sur le genre, la suite de leur relation, et cela dans un but qui devait lui être bientôt révélé. Un matin qu'il s'attablait de bonne heure au travail, il vit entrer Ninette, la voilette bien serrée sur ses yeux futés, son petit nez rougi par l'air vif, une main dans la poche de son veston, l'autre brandissant son encas. Et dans toute sa personne, quelque chose de déterminé, de finaud, qui la vieillissait et accentuait sa ressemblance avec la mère. Un regard autour du cabinet, et puis, sûr qu'ils étaient bien seuls, elle commença. Un grand ennui nous arrive, mon cher père. Figure-toi que cousin, oh, elles avaient laissé ce nom à la Posterolle, est nommé préfet en Corse. Et il accepte ? Cria de Fagan, qui d'une poussée violente de ses longues jambes, rejeta son fauteuil à 2 mètres de la table. Le petit chapeau à plumes de Longfourcourt s'inclina, fit signe que oui, que cousin acceptait. Et votre mère y consent ? Elle ne se rebelle donc plus de conditions. Oh, la dignité, le sérieux de Ninette pour répondre. Notre mère a dû se sacrifier à l'avenir de son mari. Ajaccio n'est que de seconde classe comme préfecture, mais passe de première à cause de cousin. À son âge, c'est une superbe position. Elle était à peindre, assise au bord d'un fauteuil bas, suivant du bout de son encas les dessins du tapis, ses paupières guetteuses relevées de temps en temps pour mieux juger l'effet des paroles. Il comprit qu'on la lui envoyait au lieu de sa sœur aînée, trop simple, trop naturelle, parce qu'on voulait obtenir de lui une chose très importante. Et tout à coup, devant cette astucieuse petite commère, de la colère lui montait aux joues comme s'il se fût trouvé en présence de son ancienne femme. Que Madame la Posterolle suive son mari jusqu'au bout du monde, peu m'importe. Mais on m'a promis, juré, que mes filles ne sortiraient pas de Paris. Ça, jamais on ne l'obtiendra de moi, jamais. Il assura sa volonté d'un formidable coup de poing sur son bureau, une de ces démonstrations où s'indique le plus souvent la faiblesse d'un homme, son incapacité de résistance. Très calme, Mademoiselle Ninette lui faisait remarquer que sa mère, loin de les emmener, les avait prévenus au contraire, elle et sa sœur, qu'elle resterait chez les dames de l'Assomption avec 2 dimanches de sortie par mois. Seulement vois-tu, mon père chéri, ici, battement de cils, les regards en dessous, l'idée de quitter maman toutes les deux nous fait beaucoup de peine. Et nous venons te demander de lui laisser l'une de nous, ou Rose ou moi, comme tu voudras, d'autant que le séjour de cousin à Ajaccio n'est que momentané, qu'il a promesse du ministre. La petite voix allait, allait, montait en cri d'alouette de plus en plus haut et vite. Et Régis, les yeux fermés, aurait pu se croire à 10 ans en arrière, discutant avec madame de Fagan, vaincue d'avance par la volubilité et l'inlassable entêtement de sa femme. « Je verrai, je réfléchirai, » dit-il en se levant. C'est que le temps pressait. La nomination de cousin serait-elle officielle avant 3 jours? « Eh bien, mon enfant, demain matin, ta sœur et toi, vous aurez ma réponse. »